France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Vous avez peut-être envie de vous mettre ou de vous remettre à la course à pied et vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien nous allons vous y aider. La course à pied, une pratique libre, flexible, gratuite ou presque, vous verrez qu'il est essentiel de bien identifier ce qui vous motive pour ne pas abandonner, courir pour sa santé, prévenir des pathologies, pour mincir, s'affiner, se dépasser, pour son bien-être, pour se lancer un défi personnel, courir pour une cause humanitaire, pour se vider la tête ou juste pour le plaisir. Alors, comment s'y prendre en douceur? Comment ne pas se blesser? Comment bien choisir son équipement? Quelle est l'alimentation idéale? La bonne façon de s'hydrater? Quelles sont les contre-indications? Est-il trop tard pour s'y mettre après un certain âge? Et puis nous verrons évidemment quels sont les bienfaits de la course à pied sur notre santé. Toutes vos questions sur le running au standard ou sur WhatsApp au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Allez, Rébéi.
J'adore ça. Enfin, j'adore ça. Enfin, ça, c'est que je suis contente d'en avoir fini avec la tyrannie du jogging, là. Non, parce que, alors, franchement, je sais pas vous, mais moi, je suis intimement convaincue que l'humain n'est pas fait pour courir. Ah, bah, c'est évident. Je veux dire, on n'est pas fait pour ça. Tu vois bien comment on en chie. Regarde ça. On a l'air de quoi, là? On sait pas quoi faire des pattes avant, là. On transpire comme des bœufs, on souffre comme des porcs, on a des points de côté, enfin c'est laborieux. Je veux dire, les animaux ils galopent comme ils respirent, t'as jamais vu un guépard s'arrêter en pleine course parce qu'il a un point de côté, mec.
Le jogging vu par Florence Foresti. Bonjour professeur Martine Duclos.
Bonjour Ali.
Vous êtes endocrinologue, médecin du sport et physiologiste, chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand, présidente de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Bref, une pointure dans votre domaine. Vous êtes d'ailleurs l'une de nos intervenantes régulières et je précise que vous pratiquez la course à pied. Bonjour Quentin Rocht.
Bonjour Ali.
Vous êtes kinésithérapeute spécialisé dans le sport et la course à pied. Vous transmettez vos conseils et astuces sur votre compte Instagram et vous avez publié chez Larousse Courir, le guide pour tous ceux qui n'ont jamais couru de leur vie. Bonjour Kevin Monselli.
Bonjour.
Vous êtes kinésithérapeute, coureur, ultra-trailer. C'est quoi l'ultra-trail en quelques mots?
L'ultra-trail, c'est de la course en sentier. L'ultra-trail, c'est de la course en sentier où tout simplement, on va parcourir des distances quand même assez longues, donc un peu plus longues qu'un footing, quoi.
Et vous dispensez également des conseils aux coureurs amateurs sur Instagram et vous publiez chez Albin Michel « Courir sans douleur ». Alors avant de partager vos conseils, qu'est-ce qui vous pousse à courir autour de la table et en studio à ICI Pays d'Auvergne, Martine Duclos, professeur Duclos? Quelles sont vos motivations profondes? Pourquoi est-ce que vous aimez ça?
Oh bah parce que tout simplement c'est un moment où je suis vraiment dans ma bulle et puis ça me permet d'évacuer l'énergie que j'ai pas pu évacuer dans la journée. C'est-à-dire dans la journée j'ai bien évacué mon énergie psychologique, donc je me sens vidé, mais en fait c'est un vide psychologique, mais énergiquement je suis resté sur ma chaise, mais je me suis levé régulièrement. Il y a quelqu'un qui donne des conseils pour ça régulièrement, et donc je me suis levé régulièrement, mais enfin en termes d'activité physique c'est rien du tout, donc voilà, l'énergie j'en ai beaucoup, donc je la dépense et en plus moi j'ai la chance de pouvoir courir dans la nature, donc voilà, ça me permet de me ressourcer. Et enfin, avec ça, je sais que je vais bien dormir, je vais pas me coucher énervé avec des choses qui tournent dans le mauvais sens. Au contraire, donc je sais que je vais bien dormir. Puis in fine, après, on sent effectivement, on a sa décharge de bien-être, on est bien, on sent un petit peu en phase avec, en tout cas, le monde agréable, c'est-à-dire la nature qui va bien. Et puis on sait que de toute façon, enfin j'ai bien passé pour le savoir, que c'est nécessaire à ma santé mentale et physique. Donc je suis reparti pour la journée du lendemain.
Quentin Rocht, vos motivations?
Alors moi j'ai commencé à courir tout simplement pour perdre du poids, un peu comme la plupart des gens. Ensuite j'ai découvert du coup une vraie passion dans le running, et au fur et à mesure, comme j'ai toujours été un petit peu compétiteur, j'ai toujours adoré le sport, je me suis mis aussi dans la tête des objectifs plus importants pour me découvrir aussi moi, et pour avoir plus confiance en moi, pour me dépasser et aussi se retrouver un peu avec soi-même sur ces moments de course qui font du bien.
Kevin Monselli.
C'est marrant parce que cette question revient souvent, elle a l'air simple dans la réponse, mais en réalité, Elle n'est pas si facile quand on se pose, quand on creuse un petit peu. C'est pas facile de répondre exactement. C'est très personnel. Et moi, personnellement, j'ai commencé pour découvrir un peu les environs autour de chez moi. Donc, les montagnes, les sentiers, tout ce qui était autour de chez moi. Et j'ai exploré, j'ai regardé les chemins qui étaient à droite, à gauche. Donc, c'est surtout ça qui m'a amené à courir. Et après, bah, c'était un truc, vu que moi, je fais de l'ultra trail, c'était de me découvrir. Parce que c'est un sport où on est seul avec soi-même pendant plusieurs heures. Et on apprend comment nous, on va gérer les difficultés, comment on va gérer une douleur à droite ou à gauche. Et c'est un peu ça qui m'anime, c'est de me construire moi, surtout, et découvrir des endroits.
Quentin Rockt, il est important de bien déterminer ses motivations profondes hein, pour justement rester motivé, courir pour sa santé, pour mincir, pour répondre à un défi personnel, pour se vider la tête ou tout simplement pour le plaisir.
Oui, tout
c'est
à
important
fait.
De bien déterminer ses motivations.
Oui, en fait, je trouve que c'est hyper important de se poser et de justement en parler même à soi-même, de comprendre ce qui nous motive et comprendre aussi les freins qui nous empêchent d'y arriver pour pouvoir rendre cette activité en fait pérenne sur le long terme. Tout simplement.
Alors, je rappelle qu'il y a 13 à 15 millions de coureurs occasionnels ou réguliers dans notre pays, c'est-à-dire un adulte sur trois, et 11 000 courses sont organisées en France chaque année. C'est assez énorme. Sur la détermination de ces motivations, professeur Martine Duclos, c'est très important ça, hein ?
Ah oui, tout à fait, parce que ça peut être par exemple une injonction médicale parce que alors on a un peu de poids, sachant que c'est pas l'activité physique qui fera maigrir hein, il faut rajouter une alimentation équilibrée parce que la tension est élevée, parce qu'il y a du diabète et que le médecin a vérifié qu'il n'y avait pas de contre-indication. Ça peut être parce que effectivement on a bien compris qu'on commençait à vieillir et qu'on commence à être essoufflé sur les côtes, etc. Donc on a compris qu'il fallait bouger. Donc quand c'est une injonction, la motivation va être bonne au début, mais pour tenir sur le long terme, il faut trouver des motivations intrinsèques, c'est-à-dire avoir l'impression que au fur et à mesure, effectivement, on est moins essoufflé, les pas commencent à s'alléger, on commence à trouver du plaisir, on est moins... il y a sa silhouette qui se modifie, on est plus galbé, on a un corps un peu plus ferme, et c'est effectivement ces modifications qu'on va ressentir soi-même, on est aussi moins fatigué, ça peut sembler paradoxal, mais effectivement, on est parfois une cause de fatigue et de l'essoufflement, c'est tout simplement le déconditionnement physique. Et donc, tous ces éléments à la fois physiques et puis mentaux font que c'est des choses qu'on ressent à l'intérieur de soi-même, et c'est ça qui va faire qu'on va maintenir sur le long terme. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en plus qu'on s'améliore. C'est des toutes petites choses, mais qu'on va ressentir, qui font qu'on va continuer et faire des choses différentes aussi parfois.
Quentin Rockt, quand on se met à courir ou quand on se remet à la course à pied, il est très important de se faire accompagner.
Oui, en fait, on a vu que la première année, les coureurs, ils se blessent beaucoup plus qu'habituellement.
Au moins 50% des coureurs.
C'est ça, hein. Exactement. Donc, un sur deux quand ils démarrent la course à pied. En plus, on sait que le manque d'expérience peut aussi entraîner des blessures. Ça peut être un manque d'expérience sur le terrain, on peut faire des entorses, etc. Et donc, c'est vrai que se faire accompagner, c'est sûrement une des meilleures façons d'éviter les blessures et, pareil, de garder ça sur le long terme pour aussi, après, on va dire qu'on va aussi apprendre de la personne qui nous accompagne comment, après, se fixer un plan d'entraînement, comment bien gérer ses entraînements, comment être progressif, régulier, etc. Et donc, ça va nous aider aussi pour le futur.
Kevin Monselli.
Je reprends un peu ce que Quentin disait, il y a un coureur sur deux, 50% qui se blesse. Ça, c'est pour les coureurs de manière générale, je crois que c'est cette statistique. Mais chez les débutants, donc les personnes qui commencent sur la première année, la statistique, elle va jusqu'à 80%. Donc c'est gigantesque, donc 4 personnes sur 5. Et dans la plupart des cas, c'est parce que les personnes sont un peu biaisées par ce qu'ils voient.
Expliquez-vous.
Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, ou même nos amis qui courent de manière régulière, on voit ce qu'ils font et en fait on se dit qu'on peut faire la même chose, sauf qu'en réalité courir une demi-heure, même une heure, c'est quand même déjà énorme. Et quand on veut commencer, on a tendance à faire ça, on a même tendance à se dire qu'on va aller courir aujourd'hui je cours à ça, je le fais en une heure, demain je vais le courir en 55 minutes. C'est pas du tout la bonne idée, et ça c'est une idée reçue qu'on a dans la tête. Et pour se faire accompagner, c'est justement pour enlever ce truc et mettre du coup les entraînements qui seront adaptés à nous et nous permettre du coup d'être dans ces 20% qui ne se blessent pas, qui ne se font pas mal et qui gardent du plaisir.
Accompagné par un kiné notamment.
Par un kiné, oui, c'est par des professionnels de la course à pied en général. Ça peut être aussi des médecins. Tant que la personne est assez formée sur le sujet, c'est déjà très bien. Oui.
Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Médecin généraliste et coureur. La semaine dernière, vous avez couru plus de 15 km oui. du côté de chez vous. Hein.
Oui, oui, tout à fait, oui. Mais je suis parti très très loin. Hein, parce que moi, au début, j'ai mal au genou depuis que je suis petit, pour une maladie de croissance. Et c'est grâce à la course à pied que je n'ai plus mal au genou. Stéréotype, donc, qu'il faut se retirer.
Au menu de votre dernière chronique de la saison, quoi de neuf docteur ?
Eh bien justement, on va parler un peu des chaussures, des blessures, et puis surtout, on court après quoi ?
Ah bah, grande question, à tout à l'heure. Dans un instant, nous reviendrons sur les bienfaits avérés de la course à pied. Ce sera juste après avoir écouté les Clash. Should I Stay or Should I Go ? Une chanson de 1982, 10h18 sur France Inter.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Ça donne envie de courir, hein, les Clash, Should I Stay or Should I Go ?
France Inter.
Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu ?
Grand bien vous fasse.
Je l'ai révisé, là.
Ah, parce que tous les matins, il faisait son...
Son petit déjeuner ?
Petit déjeuner, je t'en foutrais, moi. Son jogging, bande de buses.
Son quoi ?
Son jogging.
Ali Rébi.
Comment se mettre ou se remettre au jogging, la course à pied, c'est notre thème ce matin.
On en voit de plus en plus dans les magasins spécialisés, lors de nombreux trails, une paire de baskets et en avant, les coureurs sont de sortie.
Pour me dépenser, pour me faire du bien et pour faire travailler mon cœur.
Le bien-être, que ce soit mental ou physique. Hein.
En effet, le premier bénéfice de la course est psychologique.
à partir de 3 fois 45 minutes par semaine, on a vraiment un effet très bon sur, sur le stress, sur l'anxiété, sur le moral.
Guillaume Gerbaud est médecin du sport. En ville ou en pleine nature, il encourage la course car plus l'effort est important et régulier, plus le sport permet de prévenir des maladies.
Plus on va augmenter son volume et son intensité, et plus on va limiter son risque de cancer et son risque de diabète et toutes les maladies métaboliques.
L'être humain est fait pour courir et il n'y a pas de risque particulier pour les articulations. Mais pour ceux qui reprennent le sport, une visite médicale n'est pas superflue.
Extrait du JT de France 2, le 20 novembre 2024. Alors, professeur Martine Duclos, avant de se mettre à la course à pied, il est donc recommandé de faire une visite médicale. Il est important de savoir d'où on part.
Alors ça dépend quel âge on a, ouais. Et si on a des antécédents. Il est clair que si la personne a 20 ans ou 30 ans, n'a aucun antécédent, pas de pathologie, rien du tout, il n'est pas nécessaire de voir son médecin. Par contre, si la personne a 45 ou 50 ans et qu'elle a un diabète ou qu'elle est en surpoids, qu'elle fume, là, c'est toujours intéressant de faire un point avec son médecin, doser le cholestérol, faire le point sur les facteurs de risque. Je crois qu'à partir de 45 ans, c'est toujours intéressant de faire un point parce que souvent, on n'a pas vu son médecin depuis 20 ans. Donc, on fait le point et puis après, effectivement, on se remet tranquillement à l'activité sportive type course à pied.
Kevin Moncelli, je rappelle que vous êtes kiné. Comment évaluer son niveau de condition physique ?
C'est pas très compliqué en réalité. Il n'y a pas forcément de test très particulier à faire. Juste au niveau du quotidien, si on arrive à monter 3 étages, par exemple, sans être essoufflé, avoir besoin de faire une pause ou autre, c'est quand même que ça va. Après, si on arrive à le faire sans être essoufflé du tout, là, on sait qu'on est plutôt bien.
Quelles sont les contre-indications, professeur Duclos, les contre-indications absolues à la course à pied ?
C'est d'être symptomatique sur le plan cardiovasculaire, c'est-à-dire avoir des douleurs cardiaques, c'est-à-dire dans la poitrine, quand on fait d'abord au repos. Ou quand on fait un exercice très simple, marcher à faible intensité ou monter un escalier, là on va voir son médecin, ou avoir une tension artérielle qui est mal équilibrée, ça c'est une contre-indication absolue. L'autre contre-indication absolue, c'est avoir un diabète de type 1 ou de type 2 qui est très déséquilibré, c'est-à-dire en fait une glycémie qui est vraiment très très élevée en permanence, parce que l'activité physique va encore déséquilibrer le diabète. Pour le reste, c'est toute pathologie chronique qui n'est pas équilibrée. À l'inverse, on peut dire les choses d'une autre façon. Dès que vous avez une maladie chronique qui est bien équilibrée, l'activité physique et en particulier la course à pied deviennent une indication justement pour améliorer votre maladie.
Alors revenons aux bienfaits avérés de la course à pied. Quels sont les bienfaits, Martine Duclos, d'un point de vue cardiovasculaire ?
Ah bien c'est simple, hein, ça diminue le risque. Alors, risque de développer une maladie cardiovasculaire de 30 à 50%, ça dépend comment on le mesure. Et le risque de mortalité par ces maladies cardiovasculaires, donc c'est généralement infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral, à peu près de 30%, 30 à 40%. Alors, élément très intéressant, et là mesdames, je m'adresse à vous, on sait que pour la même quantité d'activité physique, les effets sont plus importants sur le plan cardiovasculaire chez la femme que chez l'homme. Donc on est en train de découvrir que les femmes existent, parce que la recherche sur les femmes et l'activité physique commence seulement à se développer parce que les femmes se sont un petit peu battues. Et donc en fait, c'est d'ailleurs peut-être une raison qui explique pourquoi les femmes font moins d'activité physique tout au long de leur vie que les hommes, parce qu'en fait, elles en ont peut-être besoin de moins. En tout cas, donc sur le plan cardiovasculaire, c'est vraiment un effet très important. Et pourquoi ça a cet effet ? Parce qu'en fait, l'activité physique va diminuer tous les facteurs de risque de ces maladies cardiovasculaires. Ça baisse la tension artérielle, qu'on soit hypertendu ou normotendu, ça baisse le cholestérol, pareil qu'on soit hypertendu ou qu'on soit hypercholestérolémique ou qu'on ait un cholestérol normal, ça diminue le risque de diabète de type 2 et ça améliore la glycémie quand on est diabétique de type 2, ça diminue le stress. Ouais. Le stress, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc en fait, ça agit sur tous les facteurs de risque cardiovasculaire que l'on peut modifier. C'est un traitement de toutes ces maladies, bien sûr.
Et de quelle façon, professeur Duclos, la course à pied permet-elle d'améliorer ses capacités respiratoires, son souffle ? C'est vrai que ce qui peut décourager quand on commence à courir, c'est l'essoufflement au bout de 5 à 10 minutes. Ça décourage d'être essoufflé dès qu'on commence à courir.
Ce qui est tout à fait normal. Tout simplement, c'est parce qu'il faut commencer très progressivement. Il ne faut pas avoir peur de commencer progressivement. C'est-à-dire que ce qui est conseillé, vraiment, si vous êtes essoufflé en montant un étage, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien vous mettre à la course à pied. Mais dans ces cas-là, vous commencez par 2 minutes de marche, 1 minute de course, mais course tranquille. Hein. Vous voyez des gens qui, des fois, vous dites, est-ce qu'ils courent ou est-ce qu'ils marchent vite ? C'est pas un problème. Vous courez 1 minute, 2 minutes de marche, puis peu à peu, vous allez réduire la marche, augmenter la course, puis après, vous n'allez faire que de la course à pied. Et peu à peu, vous allez y arriver. Il faut que, en fait, faut pas oublier que, on est programmé, plus pour marcher d'ailleurs que pour courir, mais néanmoins, on est programmé pour bouger, en fait. Donc, si vous arrêtez, eh bien, c'est un cercle vicieux. Vous allez être, les poumons vont avoir des volumes respiratoires de plus en plus faibles. Le débit cardiaque va diminuer. Il va y avoir des résistances à l'éjection du cœur. Donc tout ça, c'est la machine qu'il faudra mettre en route et ça prend du temps. Donc il faudra le temps pour que ça revienne, mais ça va revenir à un niveau qui était bien supérieur à avant que vous repreniez l'entraînement. Mais c'est avec des objectifs parfois, toujours de plusieurs semaines, hein, voire de plusieurs mois. Mais il n'y a aucune urgence. Il est clair qu'on ne se met pas dans un objectif de marathon dans 3 mois.
Kevin Moncelli ?
Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Le plus difficile, en réalité, ce n'est pas les jambes ou même le souffle, c'est d'accepter d'en faire pas beaucoup au début. Donc, par exemple, d'alterner la marche et de la course, ça, franchement, c'est un des meilleurs moyens de commencer, surtout quand on n'est pas forcément en super condition physique. Moi, c'est ce que je donne à tous mes patients. Au début, des fois, ils courent 1 minute ils courent 1 minute en alternance de marche-course 5 fois sur une balade de 20 minutes. Et au final, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ils peuvent courir 4-5 fois par semaine 30 minutes.
Quand tu es un rock?
Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit. En fait, on revient à la même chose, c'est-à-dire qu'il faut proposer des activités adaptées aux personnes pour que, sur le long terme, ils puissent en faire plus, plus souvent, et que ça soit plus agréable.
Tiens, comment lutter contre les points de côté que l'on ressent souvent quand on commence à courir et d'ailleurs, d'où viennent ces points de côté qui peuvent démotiver, hein?
Alors, sur les points de côté, il y a pas mal de théories. En fait, on ne sait pas encore exactement d'où ça vient. Ça peut être le ballottement du fait de la course à pied, des organes viscéraux, et du coup, ça pourrait être des douleurs au niveau des ligaments. Ça pourrait être aussi dû à l'ischémie d'effort, c'est-à-dire que le sang il va être plutôt alloué aux organes qui vont être utiles pour le sport, donc les muscles des membres inférieurs, les poumons, le cœur, etc. Et donc, on peut avoir des douleurs au niveau de l'abdomen qui pourraient être dues à ça. On estime qu'il y a 2 façons déjà de diminuer les points de côté. La première, c'est de bien gérer son intensité quand on commence la course à pied, donc de ne pas commencer super fort, d'augmenter progressivement au cours de son run l'intensité. Et la deuxième, c'est d'éviter de trop manger ou de trop boire avant son run. Mmh.
Vous confirmez, Kevin Moncelli ?
Totalement. Personnellement, quand je vais faire un footing, je sais pas moi, 15h ou quoi, le dimanche, si j'ai mangé avant, voilà, c'est point de côté assuré et on a envie de vomir partout, mais c'est pas agréable.
Merci pour l'image, Kevin Moncelli. La pratique régulière de la course à pied permet-elle de mincir ? Vous y avez répondu partiellement tout à l'heure, professeur Duclos. Ça permet pas de perdre du poids ? J'avais entendu dire, c'est peut-être une idée reçue, que l'on commence à puiser dans les graisses corporelles au bout de 30 ou 40 minutes. C'est une idée reçue ou c'est vrai ou c'est faux, Martine Duclos ?
Normalement, il faut plus longtemps pour puiser dans les graisses corporelles. Il faut plutôt. Faut savoir qu'on a à peu près 200 grammes de glucose dans les muscles. Alors, si vous avez un régime qui est bien, et 120 grammes dans le foie. Donc, ça fait quand même. Ça fait presque 2 heures de course.
Ah oui.
Donc, c'est souvent un petit peu au-delà, sauf si vous courez à jeun. Et puis, il faut bien comprendre que, ça, les gens ont du mal à le comprendre, 1 kilo de graisse stockée, c'est 8000 calories. Si vous allez courir 30 minutes, vous allez consommer entre 300 et 500 kilocalories. Ça dépend de votre taille, de votre vitesse, etc. Mettons 400 kilocalories. Donc, pour 8000 calories, ça fait beaucoup d'heures de course pour consommer seulement 1 kilo de graisse. Et généralement, c'est pas 1 kilo de graisse qu'on a à perdre. C'est 2, 3, 4, 5, 10. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas avec l'activité physique seule ou la course à pied seule qu'on va maigrir. Il faut ajouter, la course à pied va vous aider parce qu'en fait, ça va en plus activer et augmenter les enzymes capables d'utiliser les lipides à des fins énergétiques. et vous utiliserez moins les sucres et beaucoup plus les lipides. Alors c'est très très intéressant, vous allez apprendre effectivement à utiliser vos graisses, donc c'est top. Mais c'est pas suffisant, si vraiment vous avez du poids à perdre, il faut aussi, souvent vous avez une alimentation qui est pas top, donc faut avoir une alimentation un peu plus équilibrée. Mais l'intérêt de faire du sport aussi, ça on oublie, hein, et en particulier la course à pied, c'est que ça coupe l'appétit, et on régule beaucoup mieux, on a plus de satiété, et le fait d'avoir simplement une activité physique régulière, il est bien montré, maintenant c'est des choses qui se mesurent bien, qu'on régule beaucoup mieux sa satiété, sa faim et sa satiété. Donc en fait, on est gagnant sur tous les points.
Kevin Monselli.
Moi, je voulais juste ajouter que du coup, personnellement, je fais de l'ultra-trail et donc je fais beaucoup, beaucoup d'heures en montagne et je peux pas compter que sur la partie glucose parce que au bout de 2 heures, j'ai plus rien. Et en fait, je m'étais beaucoup renseigné sur la consommation de ces graisses qu'on a envie de perdre des fois quand on veut perdre du poids. Et en fait, on se rend compte avec les études que on consomme des graisses même très tôt, c'est juste qu'en fait, on en consomme très peu. Et par contre, justement, plus on est entraîné, plus on est coureur régulier, plus on aura tendance à consommer des graisses assez tôt, et surtout si on favorise les endurances plutôt lentes.
Quentin Rox.
Oui, je voulais aussi revenir sur la perte de poids. C'est vrai que là, on explique ça sur, par exemple, on prend l'équivalence un run égal à tant de calories. Mais en fait, il faut voir ça vraiment sur le long terme. Quand on parle de perte de poids, ce qu'on veut en réalité, c'est réussir à avoir un déficit calorique dans la journée, même qu'il soit globalement faible, mais qu'il soit tenable sur le long terme pour réussir à perdre ses kilos en trop ou pour être en meilleure santé, tout simplement. Et donc, c'est vrai que finalement, courir ou une activité physique régulière, c'est bien pour augmenter ses dépenses énergétiques. Et à côté, si on peut aussi un peu mieux gérer son alimentation, c'est parfait pour avoir ce déficit calorique tenable longtemps.
En courant, on peut ne pas maigrir, mais on peut s'affiner. C'est-à-dire qu'en conservant le même poids, on peut avoir une silhouette plus fine.
Oui, on peut s'affiner. En fait, si on part du principe qu'on va avoir un déficit calorique et qu'on va perdre du gras,
nos muscles... Qui se transforment en muscles ?
Ils vont pas se transformer totalement en muscle, mais
trop beau, ça, Kevin Monselli.
C'est vraiment magnifique.
Vous voyez mon niveau en physiologie, Kevin Monselli. Hein, moi, dans ma tête, la graisse se transforme en muscle.
Vous êtes pas le seul. Mais non, si.
C'est vrai que c'est une idée reçue assez répandue.
Ouais, hein. C'est une idée reçue, même répandue, même dans le milieu de la musculation, où on pense qu'on peut transformer nos kilos en trop de gras en muscle.
Le plomb en or.
ce serait magnifique. Si je pouvais ajouter juste un truc, c'est que vous avez raison, on peut garder le même poids, mais s'affiner parce que en fait notre mode de vie va changer et en fait notre corps il aura besoin de plus de muscles et de moins de gras parce que en fait on a besoin de plus bouger. Donc ça c'est très intéressant et le déficit calorique, donc le fait de moins manger par rapport à nos dépenses, c'est intéressant pour perdre du poids, mais sur le long terme c'est pas forcément extrêmement recommandé parce que notre corps est en déficit quoi. Donc évidemment ça fonctionne si vous avez beaucoup de kilos à perdre. Maintenant si vous êtes à un poids normal, c'est pas vraiment ce qui est recommandé.
Alors Quentin Rocht, Kevin Monselli, j'ai repéré quelques idées reçues sur la course à pied dans vos livres respectifs. Première idée reçue, il faut beaucoup de souffle pour être un bon coureur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Kevin Monselli ?
Non, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de souffle, au contraire, hein, on l'a dit. L'objectif, c'est pas de travailler sur son souffle, c'est juste de sortir, d'aller courir, de faire une petite sortie et surtout de la maintenir régulièrement. C'est surtout ça, donc la clé, c'est pas forcément d'avoir des jambes ultra rapides, d'avoir un souffle énorme, c'est juste être capable d'être très régulier.
Quentin Rocht, s'arrêter quelques jours annule tous les efforts effectués jusque-là.
Oui, ouais, et pareil, c'est une idée reçue. En fait, même si on arrive à courir ne serait-ce qu'une fois par semaine, on arrive quand même à maintenir nos capacités d'endurance. Et il suffirait également de faire même peut-être un sprint dans la semaine pour maintenir ses capacités de vitesse. Donc, pareil, c'est une idée reçue totalement.
Il n'y a pas d'âge pour commencer.
Ah,
ça, c'est vrai.
Ah, totalement, il n'y a pas d'âge. Au contraire, par exemple, une personne de 50-55 ans qui aurait des petites douleurs au dos, justement, c'est intéressant de commencer la course à pied parce que, on le voit avec nos patients, quand on amène de la course à pied de manière régulière, on soulage les douleurs liées à l'arthrose, on soulage les douleurs liées à la sédentarité. Donc, au contraire, il n'y a pas d'âge, il faut commencer, par contre, commencer à adapter.
Il faut s'étirer pour ne pas se blesser, vrai ou faux, Quentin Rock ?
C'est faux. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé en tout cas d'étirement dans les dernières années. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était sûrement un petit peu trop. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire avant de courir. Au contraire, ça a diminué les capacités musculaires. Et après un run, tout simplement, ça n'a pas non plus d'intérêt ni sur les courbatures, ni sur la fatigue musculaire. Donc après, si on veut s'étirer pour gagner en souplesse, pourquoi pas, mais plutôt à distance de l'entraînement, le soir, au repos, si c'est un moment de détente pour soi, c'est très bien.
Professeur Martine Duclos, est-ce que être trop musclé comme Adrien Chaboch, est-ce que ça peut ralentir sa course ?
Alors, je ne sais pas à quoi ressemble Adrien Chaboch.
Si vous saviez,
mais s'il ressemble à Arnold Schwarzenegger, oui, parce que en fait, le problème des, alors c'est vraiment des gens très musclés. Hein. Je pense, imaginez un bodybuilder vraiment très très musclé. Le problème, c'est que le muscle, ça consomme de l'oxygène. Donc, si vous voulez, si vous êtes très très, alors je parle pas de quelqu'un de normalement musclé, hein, mais si on est très très musclé, eh bien, effectivement, pour faire un exercice, enfin une course à pied à 10-12 km/h, vous consommez plus d'oxygène. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a 30 kg de masse musculaire versus, pour la même taille, la même quantité de masse grasse, 30 kg de masse musculaire versus 20 kg de masse musculaire, eh bien c'est 10 kg en plus qui vont être mobilisés et qui vont nécessiter de consommer de l'oxygène. Donc, effectivement, eh bien forcément, ce qui va limiter les capacités en endurance, c'est la capacité à consommer de l'oxygène. Donc, par les poumons, le volume cardiaque et la circulation sanguine, et puis par les muscles. Donc effectivement, d'avoir énormément de masse musculaire, effectivement, ça diminue vos capacités en endurance. Mais c'est vraiment le sujet qui fait du bodybuilding à l'extrême.
Et dans vos livres respectifs, vous recommandez de faire du renforcement musculaire, hein, Quentin Rock.
Oui, c'est ça.
Il y a des exercices d'ailleurs très bien décrits dans vos livres.
Ouais, le renforcement, en fait, c'est très bien, surtout quand on n'a pas envie d'aller à la salle de musculation, on peut faire ça à la maison. Même une petite séance de renfo deux fois par semaine, même une fois par semaine, ça va apporter des améliorations sur la course à pied, ça va faire travailler nos muscles différemment, et du coup, c'est une complémentarité avec la course à pied qui est très intéressante.
Et nous accueillons Lucas de Nancy. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Vous êtes en train de courir là ?
Je suis en train de courir, ouais. Je regarde sur la montre, 11 km 59.
Oh, c'est pas mal du tout. Bravo, ça, 11 km. C'est très très bien. Alors racontez-nous un petit peu les bienfaits. Ce qui est bien, c'est que vous courez en nous écoutant. C'est pas mal.
Ah bah oui, alors j'ai l'habitude d'écouter la radio. Des fois je mets rien, des fois je mets la radio, surtout sur des longues distances.
Ouais. C'est mieux quand vous mettez la radio, vous savez. Ouais. Vous savez qu'on court mieux, il y a des études scientifiques qui disent que... Non, je dis n'importe quoi.
Études produites par France Inter.
D'accord, ouais.
Racontez-nous un peu le plaisir de courir et ce que ça vous apporte, Lucas.
Alors moi, ça a été vraiment une découverte, la course à pied. J'ai commencé en février et jamais j'aurais pensé courir comme ça dans ma vie. Mm-hmm. Et maintenant, vraiment, je ne peux plus m'en passer. Je prends énormément de plaisir. Ça me fait du bien dans la tête, dans mon corps. Et voilà, j'ai envie de continuer... Encore, je sais pas.
Et vous avez quel âge ? Vous avez commencé à quel âge, Lucas ?
Alors, je viens d'avoir 29 ans, là. Mm-hmm. Donc, ça fait depuis février que j'ai commencé.
Et donc, ça veut donc dire qu'avant février, courir, ça vous excitait pas plus que ça ?
Non, ça me paraissait être un truc très chiant,
ouais.
sans objectif vraiment concret, quoi, contrairement à un sport d'équipe auquel il y a un chèque à boire.
Et si je peux vous poser une question, voilà. Pourquoi, du coup, oui. Vous êtes lancé en février ?
Alors en fait, j'ai eu un an d'errance médicale concernant une tumeur que j'ai eue au mollet, pour au final apprendre que c'était bénin. Mais je me suis quand même dit, mince, c'est quand même dommage, je fais pas de sport et tout. Donc là, c'est un peu comme une sonnette d'alarme. Et pour tester le muscle aussi, je me suis dit, allez, on y va en cours. Et puis une fois que j'ai commencé, c'était parti, quoi.
Et à partir de quel moment vous avez commencé à prendre du plaisir à la course à pied ? Ça a pris du temps ou ça a été immédiat ?
Dès la première course.
Dès la première course ?
Ouais, j'ai fait 4 km, première course. Mais je me suis quand même acheté une belle paire de chaussures pour vraiment m'investir dedans. Mmh. Et puis, c'était automatique, quoi. Mmh.
Ben, restez avec nous, Lucas. Continuez à courir en nous écoutant et en écoutant la chronique d'Adrien Chaboch à suivre. On parlera tout à l'heure d'alimentation et d'hydratation. Bonne course et à tout à l'heure, Lucas. On vous retrouve dans quelques instants. Il est 10h41, l'heure de retrouver la chronique du docteur Adrien Chaboch. Quoi de neuf, docteur ?
Ouais, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Vous avez un aussi bon rythme que Lucas quand vous courez, parce que vous avez vu, il nous parlait, pas trop essoufflé, Adrian.
Ça dépend de la vitesse à laquelle on court.
On court après quoi? C'est votre question ce matin, Adrian.
Alors Ali, c'est vraiment incroyable de voir comme le running a explosé aussi pendant le confinement du Covid. Rappelons-le quand même, dans une société où l'on court toujours après le temps, la réussite, la performance en permanence, eh bien au moment où tout s'est mis en pause, bon nombre de nous sont allés chercher au dehors ce qu'ils ne trouvaient plus en eux. Mais aussi, depuis, le business du running pèse 1 milliard en France aujourd'hui.
1 milliard d'euros. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Hein.
Non, mais non. C'est une réalité. Il ne faut pas l'oublier. En effet, les études montrent que le prix moyen d'une paire de chaussures, c'est environ 110 euros. Avec un budget total, tout équipement compris, de plus de 500 euros pour les 12 millions de Français qui déclarent courir. Alors, vous savez que le sport peut être certes prescrit sur ordonnance, mais que dans certaines conditions. Et c'est non remboursé. Mais je rappelle aussi que c'est éligible à un crédit d'impôt immédiat de 50%, il faut bien le noter. Alors, Annie, moi, je vous propose qu'on aille regarder derrière l'image si simple de la course à pied.
Alors, à quoi pensez-vous, docteur Chaboch?
Je pense en premier à Gwen. Gwen, c'est un garçon de 28 ans qui m'a consulté pour une douleur persistante à un genou. Tout avait commencé avec une blessure pour un semi-marathon. Ensuite, malheureusement, une chirurgie faite trop rapidement. Et puis, des complications nerveuses avec l'apparition de douleurs chroniques. Depuis 4 ans, Gwen, il est focalisé sur ce genou, devenu centre de son monde et de sa souffrance. Mais en définitive, ce n'était pas juste son genou. Déjà, il faut savoir que c'est une articulation complexe. Comme le rappelle l'excellent article de Barton en 2020, toute douleur du genou chez le coureur doit être placée dans l'ensemble du corps. Il faut analyser les pieds, les chevilles, les hanches, le bassin, le dos. Donc ça veut dire aussi kiné, podologue, posturologue, rééducation, avant médicaments et opérations. Et puis d'autre part, le genou de Gwen cachait le poids des moqueries de son entourage. Telle seule à pas courir, cette pression sociale de la performance. Alors, il s'est mis à courir jusqu'à se perdre pour essayer de trouver un petit peu de reconnaissance. Il s'est blessé irrémédiablement pour faire comme tout le monde. Tandis que finalement, au contraire, courir peut vous aider vraiment à vous défaire du jugement. C'est apprendre à aller quelque part, sans se fuir en chemin, dans l'effort du souffle, notre premier besoin vital, qui nous rappelle la vie dans son plus simple appareil. Courir, c'est une méditation en mouvement, c'est être rien qu'à soi pendant quelques temps.
Alors que conseillez-vous, Adrian ?
Le marché du running regorge de promesses et d'exigences. Et en rentrant dans un magasin, il faudrait savoir si vous êtes supinateur, pronateur ou neutre et de définir votre drop idéal pour avoir des chaussures minimalistes, maximalistes sur terrain, sentier et chemin, sur 5 ou 10 km, ou bien sur sol polyvalent. Arrêtez ça. Si bien sûr cela concerne des coureurs expérimentés, bien évidemment, il y aurait de quoi dégoûter ceux qui veulent s'y mettre ou blesser ceux qui s'improvisent pilotes de Formule 1 au volant d'une voiture de ville. Choisir une paire de chaussures qui ne vous fait pas mal, essayez-la et si ça ne vous convient pas, vous la ramenez au magasin. Alors voilà ma prescription. Plutôt que de chercher la chaussure parfaite, commencez par marcher pieds nus 15 minutes par jour. Cela va réveiller vos capteurs sensoriels et aider votre posture. Oubliez les slogans. Ce n'est pas la chaussure qui court, mais la conscience de votre corps. Le choix de la bonne paire de chaussures viendra par ce premier entraînement sensoriel naturellement. Parce qu'au fond, ce n'est pas la chaussure qu'il faut trouver, mais cette part de vous qui court depuis trop longtemps, sans savoir après quoi.
Sur la chaussure idéale pour courir, Kevin Monselli, Quentin Rock, qu'en disent les kinés ?
Alors, personnellement, moi, quand un patient me demande quelle chaussure choisir, je lui dis d'aller dans un magasin, de prendre une paire de chaussures qui lui plaît, de la mettre. Est-ce qu'il est confortable dedans ? De courir peut-être 5 minutes avec. Est-ce que tu te sens bien dedans ? Parfait, on prend celle-là. Point barre.
Quentin Rock.
Oui, moi je rajouterais aussi, en fait, c'est bien de différencier effectivement les coureurs qui ont déjà l'habitude de courir et les débutants. Quand on va débuter, en plus de ces bons conseils, on peut aussi rajouter le fait de prendre une chaussure plutôt légère qui va pas trop se faire sentir au bout du pied, parce qu'on sait que le poids, ça va être un facteur important au niveau de la consommation énergétique, le poids de la chaussure. Et du coup, les chaussures qui vont être plus légères, sans non plus être dans l'extrême, peuvent aussi aider à que la course soit plus agréable.
chaussures légères. Moi, je rajoute des semelles à mémoire de forme à l'intérieur. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour être plus confortable, presque comme dans une pantoufle? C'est bien ou pas?
Vous vous sentez mieux avec?
Très, très bien.
Eh ben, on garde. Et voilà. Aucun problème.
Merci beaucoup, docteur Adrien Chaboch, de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison. Et j'espère qu'on va se retrouver la saison prochaine. Hein, avec grand plaisir, mon cher Adrien. Dans un instant, comment bien s'alimenter, s'hydrater et surtout, comment bien s'hydrater par grosse chaleur, hein, comme en ce moment. On se retrouve juste après avoir écouté Cette vie de Clara Luciani, 10h47 sur Inter. Cette vie.
Ali Rebéi.
Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous allez gagner?
Grand bien vous fasse.
Pardon? Entendu.
On veut juste participer.
Maintenant, on arrête de rigoler. Vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir.
Sur France Inter.
Je n'ai pas mes habits pour courir, là.
Comment se mettre ou se remettre à la course à pied? C'est notre thème ce matin avec énormément de questions. Valérie qui nous dit « Je souhaite reprendre la course après un arrêt de 10 ans pour cause de syndrome rotulien. Quel type de chaussures prendre? Beaucoup d'amortis ou très peu? On lit tout et son contraire sur le sujet. » Kevin Monselli, je rappelle que vous avez publié « Courir sans douleur » chez Albin Michel.
Oui, j'ai destiné justement un chapitre entier pratiquement sur l'amorti de la chaussure. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'amorti de la chaussure, comme quoi ça protégerait les articulations, ou même les chevilles, les genoux, le dos, le bassin. En réalité, c'est même plutôt l'inverse qui peut se passer, parce que quand on a une chaussure avec un énorme amorti, on va avoir tendance à se reposer dessus, faire des très grands pas, s'alourdir beaucoup, alors qu'à l'inverse, si on n'a pas beaucoup d'amorti, on va utiliser beaucoup plus nos muscles, et on va avoir une foulée qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus économe, et on va... potentiellement moins se faire mal.
Donc vous conseillez a priori plutôt des chaussures avec relativement peu d'amorti?
Ouais, un amorti assez faible. Après, l'idée, c'est pas de courir en claquette non plus, parce que sinon, ce serait pas drôle. Non, c'est de courir avec sans un coussin sous le pied, quoi.
Une question qui revient beaucoup ce matin, Caroline, qui nous demande comment limiter l'impact sur les genoux.
On en revient, c'est un peu la même chose. Kevin parlait très justement de la longueur du pas et le fait d'avoir des pas très lourds. Donc c'est vrai que sur les personnes qui ont tendance à avoir des douleurs de genoux récalcitrantes, déjà on peut leur proposer des exercices de renforcement. Pareil, avoir une structure musculaire autour du genou qui est efficace, ça va permettre d'avoir moins de douleurs. Et on va les amener petit à petit à avoir une fréquence de pas plus rapide. Et des pas moins grands, ce qui va permettre d'être plus protecteur au niveau des genoux notamment.
Tiens, Elodie qui nous demande, n'est-ce pas préférable de faire de la marche rapide pour préserver les articulations, notamment en cas de surpoids ?
Non.
Kevin Monselli ?
Non, en réalité, ben, une activité est mieux qu'une autre. La marche rapide sera moins impactante que la course, ça c'est clair, donc on pourra faire des distances et des temps d'effort un peu plus longs. Maintenant, le corps, c'est pas une pièce automobile qui s'use comme ça. Quand on va lui amener des chocs répétés, mais qui sont adaptés, donc à la structure, et qu'à la récupération en conséquence, bah justement, les articulations, le cartilage, les tendons, les muscles seront plus forts que si on faisait aucun impact. Donc c'est au contraire.
Quentin Rocht, venons-en à l'équipement. Quels sont vos conseils pour bien s'équiper ? Un équipement qui dépend évidemment des saisons. En ce moment, comment on s'équipe par forte chaleur ?
Alors par forte chaleur, on va essayer, quand on est en plein soleil déjà, d'avoir un couvre-chef, donc casquette, bob, quelque chose voilà, qui va nous couvrir la tête et si possible la nuque. Kevin aussi a parlé dans son dernier réel sur Instagram que c'était aussi intéressant justement quand on était à l'ombre de l'enlever, parce que ça permettait de faire circuler l'air et justement de faire diminuer sa température corporelle. Quand il fait très chaud aussi comme ça, on peut courir avec un gilet d'hydratation. Ça nous permet d'amener un petit peu d'eau avec nous, ce qui va nous permettre...
C'est quoi un gilet d'hydratation ?
C'est un genre de sac un peu plus léger, un peu plus respirant, et ça va nous permettre de mettre voilà, de l'eau, un peu à manger, tout ce dont on a besoin sur des sorties un peu plus... Enfin, par temps, on va dire, un peu plus extrême.
On privilégie plutôt les matières synthétiques, qu'il s'agisse du haut ou du short, Kevin Monselli ?
Alors, rappelons que le corps se refroidit grâce à la transpiration et grâce à l'eau qui est à la surface du corps. Donc nos vêtements, en fait, il faut trouver le mix parfait entre un vêtement qui respire beaucoup, mais qui garde aussi beaucoup l'eau, qui garde la transpiration. Donc,
Je trouve ça très désagréable de courir avec un t-shirt en coton.
Ah non, ce sera... Bon, en fait, ça va trop maintenir l'eau et ça va pas assez respirer. Donc en fait, ça va être très lourd et en plus, il va y avoir beaucoup de frottement. Donc l'idée, c'est d'avoir un t-shirt qui est peut-être synthétique et par contre, qui va rester très respirant et garder beaucoup l'eau.
L'idée, c'est, quelle que soit la saison, d'éviter au maximum les frottements.
La peau, elle va s'adapter dans tous les cas à notre manière de courir. Donc inévitablement, quand on débute, on va avoir plus de frottements que quelqu'un qui est habitué. Mais oui, si on a des frottements, bah, ça fait mal. Hein. C'est pour ça qu'on va les éviter.
Sur les brassières, on en parlait pour les femmes. Vous les conseillez ou pas en tant que kiné ?
Alors, en fait, les dernières études, c'est vrai que je suis un homme, du coup, je parle pas au nom des femmes, mais les dernières études qui sont sorties, on en parlait tout à l'heure avec Kevin, montraient que, en fait, les brassières et les soutiens-gorge, quand on courait, ça va avoir tendance à réduire la capacité respiratoire, donc on va avoir des volumes moins importants. Et en plus, on a découvert que le fait de courir sans maintien, au début, effectivement, c'était désagréable, mais que sur le long terme, ça permettait d'avoir une poitrine qui va mieux se tenir au choc, et donc ça sera globalement plus efficace sur le long terme.
Professeur Martine Duclos, nous avons vécu des journées caniculaires ces derniers jours. Mieux vaut éviter de courir à certaines heures de la journée, quand le thermomètre dépasse les 30 degrés. J'ai encore vu ce week-end des hommes et des femmes, quinquagénaires, sexagénaires, courir à midi en plein cagnard. C'est pas forcément une bonne chose, non ?
C'est carrément une mauvaise chose. Et en fait, je pense que ces personnes pensent que, en fait, ils vont maigrir. C'est-à-dire qu'ils se pèsent avant, ils se pèsent après, sachant qu'on peut éliminer jusqu'à 3 litres d'eau en une heure. Ils se disent, ah, fabuleux, j'ai maigri. Sauf que s'ils se repèsent 2 heures plus tard, s'ils ont bien bu, bah, ils vont être exactement au même poids. C'est comme les gens qui courent avec 3 survêtements, un kawaii, enfin, voire 2 kawaii. Enfin, bref, c'est totalement aberrant. Donc, n'oubliez pas, effectivement, comme on vient de vous le dire, quand il fait chaud, le seul moyen de maintenir votre température corporelle, pas de passer à 40 degrés, avoir des signes d'hyperthermie maligne, c'est l'eau que vous allez éliminer avec la chaleur en même temps. Donc effectivement, par ces températures-là, il faut courir soit tôt le matin, soit en fin de journée quand la température baisse. Voilà. Sinon, bah, vous risquez vraiment de faire un coup de chaleur, d'autant plus que vous vieillissez, parce que plus on vieillit, moins on thermorégule bien, moins on adapte sa thermorégulation, et donc on risque de faire un coup de chaleur. Et n'oubliez pas qu'on peut mourir d'un coup de chaleur, et d'autant plus qu'on prend des médicaments comme des neuroleptiques, et quand on vieillit, on peut être amené à prendre des neuroleptiques.
Dernière question, il nous reste une poignée de minutes. Comment bien s'hydrater et quelle est l'alimentation idéale avant et après la course, Quentin Rocht, sur l'hydratation d'abord.
Moi j'en ai subi les conséquences le week-end dernier sur une grosse course et j'ai dû du coup m'arrêter parce que je ne m'étais pas suffisamment hydraté et donc j'ai fait une petite insuffisance rénale d'effort. Ce qu'on admet communément, c'est que généralement, si on court moins d'une heure, on peut se fier à sa sensation de soif. Et donc, on va pouvoir se réguler comme ça. Maintenant, sur les périodes de grosse chaleur comme ça, il va falloir, on va dire, surconsommer de l'eau, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on perd énormément d'eau sur un run, surtout en pleine chaleur. Et donc, il va falloir qu'on va dire compenser plus, augmenter ses apports hydriques et ses apports aussi d'électrolytes, parce qu'on ne perd pas que de l'eau, il faut le rappeler.
Électrolytes,
c'est des sels minéraux.
Professeur Duclos, pour terminer, qu'est-ce qu'on mange avant, après, et est-ce qu'il est bon de courir à jeun ? En quelques mots.
Ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment courir à jeun, des gens qui n'aiment pas. L'intérêt, c'est quand vous courez à jeun, vous mobilisez vos lipides, mais après, vous allez les stocker. Donc, nous, on avait travaillé là-dessus, c'est exactement pareil. Après, ça, c'est chacun fait comme il veut et comme il le sent bien. Ce qui est important, c'est surtout pas manger trop avant, parce qu'on vous l'a expliqué, vous allez avoir mal au ventre et envie de vomir, donc c'est même pas la peine.
C'est vrai qu'une blanquette de veau avant d'aller courir, c'est pas l'idéal.
Non, donc ni une grosse pâtisserie pleine de crème. Donc vous allez courir à distance des repas, et puis après, si la distance est longue, vous privilégiez effectivement sur le repas d'avant une alimentation qui est riche en glucides lents, pâtes, le riz c'est pas vraiment des glucides lents, mais enfin des glucides qui vont vous permettre d'augmenter vos réserves de sucre, de glycogène dans les muscles.
Et on peut courir à jeun si on le sent, si on est en bonne santé, il faut pas hésiter si on se sent mieux comme ça.
Voilà, sauf si on est diabétique.
Exactement. Lucas, vous êtes resté avec nous. Hein, vous en êtes où là?
J'ai passé le 16e kilomètre là.
16 kilomètres, c'est pas mal. Et vous nous disiez hors antenne, Kevin Moncelic, Quentin Rocht, qu'il a un bon rythme, hein, parce qu'il arrive à bien parler pendant qu'il court.
Alors, je ne sais pas à quelle vitesse il court, mais en tout cas, il court à sa bonne vitesse, parce qu'il arrive à parler avec nous. Donc ça, c'est super bien.
Vous avez mangé avant ou vous courez à jeun, Lucas?
J'ai mangé un petit bout de pain et de la confiture. Pas trop manger avant de courir.
C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, mais bonne course en nous écoutant, Lucas.
Merci
beaucoup de nous avoir appelés. Merci beaucoup, professeur Martine Duclos. On vous retrouve évidemment à la rentrée prochaine dans notre émission régulièrement. Vous êtes une habituée. Merci beaucoup. Vous reviendrez également, Quentin Rocht et Kevin Moncelli, pour parler des douleurs quand on fait du sport. Quentin Rocht, je recommande Courir, le guide pour tous ceux qui n'ont jamais couru de leur vie, c'est chez Larousse. Et Kevin Moncelli, c'est Courir sans douleur chez Albin Michel. Et on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux respectifs, Instagram, il y a quoi encore
TikTok, Instagram.
Instagram, YouTube, ouais, c'est ça.